Trapiblog Radio sur Marmite FM, présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM,
présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission du Trapiblog Radio avec aujourd'hui deux invités qui sont deux sœurs, avec Nisrine qui a 20 ans, bonjour Nisrine.
Bonjour.
Et avec Imen qui a 16 ans, bonjour Imen.
Bonjour.
Aujourd'hui avec vous deux, on va parler de ce que c'est que la vie de quartier pour deux jeunes filles, pour deux jeunes femmes, dans la suite de l'organisation d'une prise de parole par des jeunes du quartier Jean Massé, des filles notamment. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de la vie de quartier selon vous. C'est votre point de vue, c'est pas le point de vue de l'ensemble des habitants des quartiers, évidemment. Nisrine, pour commencer, tu dirais que c'est quoi le plus gros avantage ou les plus gros avantages de vivre dans le quartier Jean Massé, de vivre dans un quartier pour toi ?
Alors déjà, pour commencer, j'ai pas grandi entre guillemets dans le quartier parce que quand j'avais 16 ans, j'ai dû partir en internat. Mais d'aussi loin que je me rappelle, je pense que c'est plus l'esprit de communauté, l'entraide qu'il y a en quartier. Parce qu'on se connaît un peu tous entre nous, on a cette façon de vivre aussi qui est similaire. Du coup, on s'identifie chacun aux autres, quoi.
Est-ce que tu as l'impression que par rapport à l'époque où tu étais à l'école primaire, il y a eu beaucoup de changements dans la population du quartier, ou est-ce que tu as l'impression que le groupe de garçons et de filles que vous étiez, en fait, a grandi à Jean Massé ?
On s'est un peu perdu de vue. Il y en a certains que je n'ai pas du tout recroisés depuis le collège. Il y a beaucoup de nouveaux aussi. Mais voilà.
Quand tu dis que vous vous êtes perdu de vue, ce seraient des gens qui ont grandi dans le même quartier que toi, mais dont, avec lesquels tu parles pas, ou ce serait plutôt des gens qui ont déménagé et que tu vois jamais?
Les deux, on va dire. Il y avait des filles avec qui j'étais au collège. Moi, du coup, après, je suis partie en internat, donc je les voyais plus, on s'est perdu de vue. Il y a aussi d'autres personnes avec qui j'avais pas forcément d'affinité, mais que j'ai pas eu l'occasion de recroiser, même pas juste dans le quartier. Du coup, je pense qu'ils ont dû déménager.
D'accord. Imen, tu dirais, toi, que c'est quoi les gros avantages de vivre dans un quartier pour toi, dans ton quartier ?
Le fait qu'on connaît à peu près tout le monde. Parce que du coup, on se sent mieux chez nous quand on connaît presque tout le monde que quand on connaît personne.
Est-ce que du coup, tu es dans la même situation que quelqu'un qui vivrait dans un village et qui connaît tous les membres du village ou est-ce qu'il y a une spécificité du quartier ? Tout à l'heure, Nisrine évoquait le fait d'avoir finalement une même culture au sein du quartier. Est-ce que toi, pour toi, c'est quelque chose d'important ou pas particulièrement ?
Pas particulièrement, parce qu'on peut, s'entendre bien avec des personnes qui n'ont pas forcément la même culture que nous.
Et le fait, parce qu'on en parle souvent, d'avoir au sein d'un quartier une communauté musulmane qui est importante, même si évidemment tout le monde n'est pas musulman au sein d'un quartier, est-ce que ça c'est quelque chose qui pour toi est important ou pas particulièrement ?
Oui, c'est important et c'est pas forcément très important non plus.
Qu'est-ce que toi tu vois d'important, puis ensuite on verra ce qui n'est pas si important que ça ?
Le fait que si on est tous musulmans, on se comprend mieux que ceux qui ne sont pas musulmans.
T'as quoi, par exemple, en tête sur la compréhension, les périodes de Ramadan, les tenues vestimentaires, qu'est-ce que toi t'as en tête ?
Un peu tout ça, mais surtout les obligations de la religion.
Qui serait quoi au quotidien ?
Le fait que les filles et les garçons ne peuvent pas forcément rester trop ensemble, ou même vestimentairement parlant aussi. Mmh.
Et quand tu dis que c'est pas si important que ça, finalement, le fait d'appartenir à une même communauté religieuse, même si on le répète, tout le monde n'est pas musulman dans les quartiers, t'as quoi en tête ?
Le fait que, comme je l'ai dit, on peut très bien s'entendre avec une personne qui n'est pas de la même religion, et elle comprend normalement notre religion et comprend la sienne. Du coup, on est en capacité de se respecter même si on n'a pas la même religion.
Oui, il n'y a pas une forme d'enfermement en fait dans une communauté religieuse. Ça simplifie parce qu'il y a une culture partagée, finalement, il n'y a pas de préjugés, mais ça n'empêche pas de vivre avec d'autres.
Oui.
Qu'est-ce que toi, tu entends, Nisrine, quand tu parlais de ça, le fait d'avoir une même communauté culturelle au sein du quartier ? En quoi ça simplifie la vie ?
Ça simplifie la vie parce qu'on s'identifie un peu tous les uns les autres, qu'ils soient noirs ou arabes ou même blancs. on vit un peu tous la même chose, on est un peu tous dans la même case sociale. Du coup, on vit un peu le même regard des gens. Et donc, du coup, on se comprend plus facilement.
Quand tu parles du regard des gens, tu penses à quoi ?
Aux politiciens. Aux politiciens ou genre lambda qui ne vivent pas forcément dans des quartiers et du coup, ils ont une mauvaise image des quartiers parce que les politiciens ou même à la télé, ils entendent des choses négatives alors que ce n'est pas forcément vrai.
Alors du coup, quand toi, tu es avec des gens qui habitent dans ton quartier, qu'est-ce qui te rassure par rapport à cette image qui est renvoyée à l'extérieur du quartier ou par les politiciens, comme tu dis, ou par les médias?
C'est un peu comme si, par exemple, demain, je vais faire une bêtise, je me sens plus en sécurité si on est plusieurs. Donc c'est un peu pareil. Là, si on est 4, 5 ou des centaines à être jugés constamment parce qu'on vient de trappe, je me sens beaucoup plus en confiance parce que je me dis, au final, moi, je vis ça, je sais ce que c'est, mais je ne suis pas la seule.
Et est-ce que vous trouvez ça réconfortant, le fait finalement de subir des discriminations dans les médias ? Parce que quand on parle des politiciens, en fait, c'est via les médias qu'on a leur message. Est-ce que c'est réconfortant d'avoir des regards de gens qui vous discriminent pas du tout au sein du quartier ? Ou c'est pas si fort que ça, Imen ?
C'est important. Parce que du coup, on se sent moins seul.
Parce que le fait de sentir la discrimination, tu penses, toi, que ça isole, c'est ce que tu ressens?
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça isole? C'est quoi le phénomène, tu vois, psychologique qu'on ressent quand on est victime de discrimination dans les médias?
On se sent exclu parce que du coup, on pense qu'on n'est pas vraiment, on fait pas vraiment partie du, je sais pas comment dire.
De la communauté nationale, quoi.
Oui, c'est ça.
Et alors, du coup, qu'est-ce que ça fait, ça?
Ça nous isole.
Quand toi, tu as ces messages-là, tu les as quoi? Tu les reçois comment? La télévision, les réseaux sociaux, ces messages de discrimination qui peuvent être 100% médiatiques ou plutôt politiques?
C'est à la télévision.
À la télévision, t'as quoi en tête?
Surtout ce qu'ils disent depuis certains attentats.
Donc toi, c'est depuis, là, t'as 16 ans, donc c'est depuis que t'as, on va dire, presque une dizaine d'années que tu subis ça.
Oui.
Et alors... quand tu entends ça, toi, tu te dis quoi? Ou vous vous dites quoi? Parce que des fois, tu l'entends seul, des fois, tu l'entends avec des membres de ta famille. Comment, toi, tu vas ressentir ça?
Ça va me mettre mal, mais après, quand je vais parler avec mes amis ou ma famille, je vais me sentir mieux parce que du coup, je serai moins seul.
Oui, et du coup, c'est cette capacité, finalement, à s'identifier à d'autres qui vivent la même chose que vous, qui fait qu'au sein du quartier, finalement, il y a une forme de solidarité sur le regard qui existe.
Tout à fait.
Ok. Sur les inconvénients de votre quartier, Nisrine, tu dirais que ça ressemble à quoi pour toi, donc jeune femme de 20 ans qui habite dans un quartier à trappe?
Là, si je parle en mon nom à moi, ça change pas grand-chose parce que j'ai toujours eu beaucoup de liberté. Quand j'avais 16 ans, mes parents m'ont autorisé à aller vivre toute seule dans le 77.
Alors, tu peux nous expliquer dans quel contexte c'était ça?
Un contexte sportif. J'étais en internat en sport-études et jusqu'à l'année dernière, en fait, je suis restée en internat de mes 16 à 10, enfin à mes 20 ans. Du coup, j'ai toujours été assez libre par rapport à ça. Mais si après, je dois me mettre à la place d'autres filles qui vivent dans mon quartier ou de ce que je vois, je peux dire que c'est un contexte assez compliqué parce que il n'y a pas la même égalité entre les femmes et les hommes dans un quartier.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme ça prend, ces inégalités-là?
Sur les libertés, les filles, elles vont pas forcément avoir le droit de rester dehors jusqu'à tard, elles auront pas le droit de sortir tant de fois, et du coup, c'est un peu triste, on va dire, mais cette forme d'inégalité-là, je dirais pas qu'elle est présente que dans les quartiers, c'est plus elle est présente dans la culture et dans la religion.
Quand tu parles de culture et de religion, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à la culture française des campagnes? Est-ce que tu parles de la religion musulmane ou de toutes les religions? Est-ce que tu penses finalement à la culture du bled? C'est quoi que tu as en tête?
Quand je parle de culture, je parle de la culture, oui, du bled. Et de la religion musulmane aussi. C'est plutôt... en fait, les parents, ils vont plus s'identifier à ce qu'eux, ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes, sachant que la plupart, ils ne viennent pas de France. C'est tous pratiquement, pas tous, des immigrés. Du coup, ils s'identifient plus à ce qu'eux, ils ont vécu Et ils vont s'identifier aussi à la religion, aux préceptes religieux.
Et alors du coup, ce qui est assez normal, c'est qu'il y a un choc en fait de génération entre les parents et les enfants. C'est toujours le cas depuis 500 000 ans, depuis qu'il y a des planctons. Comment est-ce que toi tu vis ça, cette différence finalement culturelle, puisque toi tu as grandi en France, tu es né en France, tu as grandi en France. En plus, tu as quitté le quartier de 16 à 19 ans par rapport à la culture de tes parents.
Je la vis pas forcément mal. Après, encore une fois, j'ai pas forcément les mêmes droits que les filles de mon âge. Même si je dis que je suis un peu libre, que maintenant, même si je suis revenue vivre chez mes parents, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit d'aller sur Paris, j'ai quand même certaines restrictions, je dois rentrer à 18h, alors que je sais que d'autres filles de mon âge, elles ont pas forcément de couvre-feu.
Qui habiteraient dans un autre quartier, tu veux dire, ou qui viendraient d'une autre famille.
Qui viendraient d'une autre famille, ou même ouais. d'une autre ville carrément, qui viennent de Paris. Du coup, ce décalage-là, oui, ça fait mal quand tu sais qu'à 20 ans, t'as envie de vivre. Donc au final, tu peux pas. Du coup, moi, même si j'ai beaucoup plus de liberté qu'elle, je vis quand même cette situation-là. Donc je me dis qu'elles aussi, elles doivent en pâtir, quoi.
D'accord. Imen, comment toi, tu vis cet inconvénient lié aux inégalités entre garçons et filles? Est-ce que c'est quelque chose qui te révolte? Ou finalement, c'est quelque chose que tu trouves normal? Comment tu vis ça, toi?
Comme j'ai pas de frère, du coup, moi, je l'ai pas vécu, cette inégalité. Et vu que j'ai toujours eu ce mode de vie-là, pour moi, c'est totalement normal.
Qu'est-ce que tu fais comme lien entre le fait d'avoir un frère, un grand frère, et le fait de subir un peu plus ces inégalités?
Parce que quand t'as un grand frère, tu remarques qu'il rentre plus tard que toi, et que toi, t'as pas le droit de rester aussi tard dehors, du coup, tu le sens, l'inégalité. Sauf que comme moi, je côtoie pas de garçon et que j'ai pas de grand frère, eh ben, je vois pas que les gens peuvent rester plus tard dehors que moi, alors que c'est pas normal.
Tu le vois, mais finalement, tu trouves ça normal, puisqu'en fait, tu as connu ça depuis toute petite.
Oui.
Est-ce que vous êtes trois sœurs dans la famille?
C'est ça.
Est-ce que ça, c'est des éléments, des fois, dont vous parlez, des inégalités entre les garçons et les filles dans le quartier, le fait que les filles soient pas dehors quand les garçons y sont, ou c'est pas, ça fait pas l'objet d'une discussion entre vous?
Non, on n'en a jamais forcément parlé, parce que comme elle l'a dit, elles l'ont vécu depuis toute petite. Du coup, elles n'ont pas forcément eu ce choc, ce déclic.
Donc ça fait partie, en fait, du quotidien, quoi.
C'est ça, ouais.
Imen, qu'est-ce que toi, tu verrais comme inconvénient dans la vie de quartier? On a parlé de tous les avantages qu'il y avait. Mais si on veut avoir un portrait un peu plus riche de ce que vous vivez, tu verrais quoi, toi, comme inconvénient?
Le regard des gens extérieurs, parce que pour les gens extérieurs, la vie de quartier, c'est toujours des personnes qui sont méchantes ou même des sauvages, comme ils peuvent le dire parfois. Du coup, ça peut freiner sur notre avenir. Et par exemple, dire qu'on habite dans un quartier, c'est pas forcément l'endroit le plus le mieux pour pouvoir faire des meilleures études.
Donc toi, tu quand tu parles du regard extérieur qui est négatif, t'as quoi en tête? T'as qui en tête?
On le voit sur YouTube, sur des TikTok ou des trucs comme ça.
Ça va être plus les réseaux sociaux, en fait, ou sur Internet.
Oui.
Tout à l'heure, quand tu parlais de la télévision, est-ce que tu remarques ça aussi à la télé? Et puis si c'est le cas, comment, de quelle manière?
Je regarde pas trop l'information à la télé, du coup, je pourrais pas dire.
Mmh.
Mais je sais pas.
Donc du coup, pour toi, c'est TikTok et YouTube.
Oui.
Tu vois quoi comme type d'extrait ou comme type de message?
Bah, surtout, par exemple, quand on va sur Google, il y a des petites pages d'informations qui apparaissent. Et jamais il y a quelque chose de positif, par exemple sur la ville de Trappes, il y a toujours des choses négatives. Et du coup, c'est ça qui peut ramener un mauvais œil.
Tu veux dire sur les titres, en fait, des informations qui sont associées à la ville, quoi?
Oui.
Et quel lien tu fais, toi, entre ces mauvaises informations et le fait que derrière, tu as moins de chances, notamment à l'école?
Bah, les gens, ils vont se dire que forcément, comme il y a que ça qui se passe là-bas, ils vont penser qu'on n'est pas forcément des personnes qui travaillent correctement et qu'on s'en fiche un petit peu des études. Et du coup, bah, ils vont se dire que ça sert à rien de nous prendre dans leurs écoles, alors que bah, c'est pas du tout ça.
Alors du coup, quand toi, tu vis ça, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu as tendance à te replier sur toi? Est-ce que tu as tendance à être en colère et à écrire des trucs, à répondre à des messages sur les réseaux? Comment est-ce que toi, tu vis ça?
Ça m'énerve, mais je ne le dis pas forcément.
Et pourquoi tu ne le dis pas? Et puis si tu devais le dire, à qui tu pourrais le dire d'ailleurs?
Je le dis pas parce que j'en vois pas l'utilité, parce qu'une personne qui parle, c'est pas comme tout le monde qui parle. Je me souviens plus de ce que
tu
avais dit.
Là, ce que toi tu dis, c'est qu'en fait, ta parole, déjà, tu sentirais qu'elle serait perdue, en fait, dans un flot de paroles tellement négatives que ça peut rien changer ce que toi tu vas dire, c'est ça? Et si tu devais en parler, t'en parlerais à qui?
Bah, aux autres personnes du quartier, qui eux pourront aussi en parler sur les réseaux, et peut-être que ça va changer l'image négative.
D'accord, créer quelque part un collectif. Oui. Quoi, le fait de parler entre vous. Et quand tu parles des gens de quartier, du quartier, tu penses aux gens qui ont ton âge ou tu penses à certains adultes? Comment tu vois le truc?
Bah, aux personnes qui aimeraient faire des bonnes études. Parce que du coup, eux aussi, ça les freine dans leurs études, alors qu'ils voudraient bien faire de meilleures études que ça.
Et quand tu dis que ça freine, est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'autocensure, de barrière qu'on se met au bout d'un moment à force d'être insulté, discriminé sur les réseaux? Est-ce qu'on crée ça à l'intérieur de soi? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est uniquement des blocages qui sont à l'entrée des grandes écoles ou à l'entrée des facs? Comment tu vois ça?
Moi, je pense que c'est juste uniquement des blocages qui sont à l'entrée des écoles.
D'accord. Nisrine, quand tu entends ta sœur parler de ça, des discriminations qui peuvent être vécues, et de l'impact que ça peut avoir sur le futur, notamment les études, comment est-ce que toi tu ressens ça? Est-ce que tu es d'accord avec elle ou est-ce que tu vois les choses différemment?
Ah, je suis totalement d'accord avec elle. Aujourd'hui, si tu dis que tu viens d'une ville comme Trappes et que, je sais pas, tu veux aller à Sciences Po, bah ils vont se dire, bon, elle vient de Trappes, c'est bizarre, elle est pas forcément sérieuse. Ils vont se dire aussi, bah si elle habite à Trappes, ça veut dire que, je sais pas, si c'est un garçon, oui, ils vendent de la drogue. Ou du coup, au final, on a moins de chances d'être accepté qu'une personne qui va venir d'une campagne ou de Paris même.
D'accord. Pour terminer l'émission, si vous aviez une baguette magique pour améliorer la situation, qu'est-ce que vous feriez pour que votre vie au quotidien elle soit meilleure, Nisrine?
Je choisirais un meilleur président.
Alors pourquoi? En quoi le président ou le changement de président, ça changerait quelque chose, toi, à ton quotidien?
Bah, parce que le président, il a beaucoup de pouvoir. Et, enfin, je ne changerais pas forcément que le président, mais on va dire à peu près pratiquement 90% de tous les politiciens français ou une grande partie des députés aussi, parce qu'ils ont un grand pouvoir sur les lois qui vont être mises en place et tout, et la plupart du temps, bah, ils sont de droite, du coup, bah, ça nous pénalise beaucoup.
Alors pourquoi? Quel lien, toi, tu fais entre le fait qu'il y ait beaucoup de députés qui soient de droite, comme tu dis, et le fait que toi, tu sois pénalisé? Quelle image t'as en tête?
Bah, la droite, par rapport aux enfants d'immigrés ou même aux immigrés directement, ils ont une mauvaise image de nous, ils ont une mauvaise image des quartiers. Et du coup, bah, quand ils vont devoir voter un projet de loi pour les étudiants en difficulté ou pour aider les familles en difficulté dans des quartiers, ils vont pas voter en faveur parce qu'ils en ont rien à faire un peu de nous.
D'accord. Donc toi, ce que tu vois, c'est plus au niveau des lois, en fait, l'impact que ça peut avoir, la multiplication des lois sur votre quotidien.
Oui, parce que c'est la chose qui peut nous toucher directement. Parce qu'on peut prendre... On peut en parler autant qu'on veut, mais ça ne changera pas forcément.
De quoi, quand tu dis, qu'est-ce qui ne changerait pas?
La vision des gens.
Oui, d'accord. Imen, toi, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour que les choses aillent mieux, toi, dans ton quotidien?
Dans mon quotidien?
Ouais, dans ta vie à toi. Est-ce que ce serait avoir plus d'argent? Est-ce que ce serait changer les députés? Est-ce que ce serait peut-être changer la manière dont les messages sont passés sur les réseaux ou dans les médias traditionnels? Qu'est-ce qui, toi, te semble prioritaire pour que ça aille mieux dans ta vie à toi?
Dans ma vie, en fait, je pense que ma vie à moi, elle est bien. Parce que du coup, j'ai pas de problème par rapport à tout ça.
Et alors, imaginons maintenant que tu penses à la vie des habitants de ton quartier. Qu'est-ce que toi, tu ferais si vraiment tu avais tous les pouvoirs du monde pour améliorer leur vie au quotidien?
De retirer tous les stéréotypes qui sont autour du quartier.
Et on ferait comment pour ça, si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu changerais dans notre environnement médiatique, culturel, pour arrêter, en fait, tous ces stéréotypes négatifs?
J'ai pas d'idée, mais je sais dans ma tête comment est-ce qu'on peut faire, mais je ne sais pas comment poser des mots dessus.
Alors, dis-moi, quelles sont les images qui te viennent à l'esprit ?
Montrer la vraie réalité du quartier. Parce que ce qu'ils montrent, c'est, en général, c'est dans des reportages de police, quand ils vendent de la drogue ou des trucs comme ça. Sauf que ça, c'est vraiment peut-être 5% de la population qui le fait, et les 95% ils font rien du tout. Et ils veulent juste, ils font leur vie tranquillement.
Ouais, et donc du coup, ce serait un peu le regard des médias, en fait, sur ces quartiers-là qui changerait.
Oui.
Bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, puisque c'est ce qu'on essaye de faire, nous, au Trapiblog Radio, et ce que fait Marmite FM au quotidien depuis de nombreuses années. Merci à toutes les deux pour votre retour d'expérience. Merci Nisrine, merci Imen.
De rien.
Et merci à toutes les auditrices et auditeurs de Marmite FM 88.4, et à très bientôt pour une nouvelle émission du Trapiblog Radio. Le Trapiblog Radio sur Marmite FM, présenté par Medilitim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM,
présenté par Medilitim.
On fait comme ça.